VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. La francophonie a une nouvelle patronne, Louise Mushikiwabo. La ministre rwandaise des Affaires étrangères a été nommée secrétaire générale par consensus lors d'une réunion à huis clos ce vendredi, au dernier jour du 17e sommet de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, à Erevan, en Arménie. Sa nomination ne faisait plus aucun doute depuis que sa rivale, la sortante canadienne Michaëlle Jean, avait perdu ses deux plus importants soutiens, le Canada et le Québec. L'intronisation de Mme Mushikiwabo marque le retour de l'Afrique à la tête de l'OIF, qui avait été toujours dirigée par des Africains avant Mme Jean, et la consécration du continent africain en tant que locomotive de la francophonie. L'Organisation internationale de la francophonie est une sorte de mini-ONU composée de 84 États et gouvernements. Les élections en Afrique maintenant. En Côte d'Ivoire, la campagne pour les élections locales de ce samedi a officiellement pris fin jeudi soir à minuit. Quelques 6,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour des élections municipales et régionales qui suscitent énormément d'intérêt. Le correspondant de VOA Africa, Abidjan, Georges Ibrahim Tunkara, nous en dit plus.
Au terme de deux semaines d'une campagne électorale qui s'est bien déroulée dans l'ensemble, mais qui a fait un mort à Bédiala dans le centre-ouest du pays, les électeurs ivoiriens vont choisir ce samedi leurs conseillers municipaux et régionaux. Un double scrutin qui a valeur des tests pour les différents partis politiques avant la présidentielle de 2020. Ces élections locales vont surtout permettre au nouveau parti unifié, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, dirigé par Alassane Ouattara, de voir ce qu'il représente réellement sur le terrain depuis le départ du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI d'Henri Konabédié, de cette coalition. Preuve de l'importance que le pouvoir accorde à ces élections, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était sur le terrain tout au long de la campagne, en vue d'apporter son soutien et celui du chef de l'État à plusieurs ministres. Il s'agit du ministre de la Défense Ahmed Bakayoko à Abobo, Siandou Fofana à Port-Boué, Kobena Kwasi à Djoumani à Bondoukou ou Amédé Kouakou à Divo. On suivra également de près la dizaine de candidats indépendants proches de Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale. Ces élections locales sont aussi un test pour la commission électorale dont l'indépendance est mise en doute par plusieurs formations politiques qui exigent sa recomposition. De nombreux Ivoiriens souhaitent surtout que ce rendez-vous électoral se déroule dans la paix et sans violence. Georges Brahim Tunkara, VOA Afrique, Abidjan.
Au Nigeria, l'ex-président Olusegun Obasanjo apporte son soutien à Atiku Abubakar, son ancien vice-président et principal candidat de l'opposition à la prochaine présidentielle. Cet appui à un ex-collaborateur intervient après des années de brouille entre les deux hommes. Nani Talani.
Atiku Abubakar, âgé de 71 ans, a été le vice-président de Olusegun Obasanjo en 1999. Leurs relations se sont détériorées quand Abubakar a voulu se présenter contre son mentor à la présidentielle de 2007. Mais la volonté d'Obasanjo de faire barrage à l'actuel chef de l'État, Muhammadu Buhari, semble l'avoir emporté sur les vieilles rancœurs. Dans une lettre ouverte en janvier, il a déclaré que Buhari ne devrait pas se représenter et qu'il était temps qu'il prenne un repos mérité. Il pense que son dauphin aura la capacité de mieux réussir que l'actuel chef de l'État. Atiku Abubakar, qui a déjà tenté à 4 reprises, a été élu dimanche lors des primaires du PDP pour affronter M. Buhari à l'élection présidentielle prévue en février. C'est un homme d'affaires qui a amassé une fortune colossale dans l'import-export, le pétrole, l'agriculture et les télécommunications. Sa campagne pourrait être ternie par des allégations de corruption et les scandales de conflits d'intérêts qui ont émaillé sa carrière.
Au Cameroun voisin, les électeurs toujours dans l'attente de la proclamation officielle des résultats du scrutin présidentiel de dimanche. Les 3 principaux candidats de l'opposition à l'élection présidentielle ont saisi hier le Conseil constitutionnel pour lui demander d'annuler en partie ou totalement le scrutin de dimanche pour fraude et irrégularité. Des détails avec Claire Morin-Gibourg.
Après avoir revendiqué la victoire lundi, le candidat Maurice Kamto a déposé une requête en annulation partielle des opérations électorales au Conseil constitutionnel. Il demande l'annulation du vote dans 7 des 10 régions du pays en raison de multiples irrégularités, de fraudes et des cas de violation de la loi. Les candidats Joshua Ossi du SDF, le principal parti d'opposition, et Cabral Libi ont eux introduit des recours en annulation totale du scrutin. Pour Joshua aussi, il est impossible que le vote ait eu lieu en zone anglophone en raison de l'impuissance de l'administration à y assurer la sécurité. Le conseil, dont les membres sont des proches du président sortant et candidat Paul Biya, doit examiner ses requêtes et donner son verdict avant de proclamer le résultat du scrutin au maximum 2 semaines après l'élection.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Élection en Afrique toujours. En République démocratique du Congo, l'opposition appelle à une marche de protestation le vendredi 26 octobre pour dire non à l'usage de la machine à voter lors des prochaines élections. Les opposants l'ont fait savoir à travers un communiqué signé jeudi soir à Kinshasa. Les détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire dans la capitale congolaise.
Nous appelons le peuple congolais à se mobiliser pour exiger l'impression des bulletins de vote manuel conformément à la loi électorale et au calendrier publié par la CENI, peut-on lire dans ce communiqué signé par 7 leaders de l'opposition, à savoir Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Adolphe Muzito et Freddy Matungulu. En province, ces opposants annoncent un grand meeting à Lubumbashi dans le Haut-Katanga ce samedi 13 octobre 2018, au cours duquel sera transmis le même message à la population. Totalement opposé à la Commission électorale nationale indépendante sur l'usage de la machine à voter lors des prochains scrutins, les 7 leaders de l'opposition réaffirment leur exigence de vider, au niveau du cadre de concertation CENI candidat président de la République, les 2 questions préjudicielles. D'une part, la légalité de la machine à voter et de l'autre, la radiation de près de 10 millions d'électeurs sans empreinte digitale du fichier électoral avant la mise en place de la commission technique que recommande la CENI. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa, patron de l'ANC au pouvoir, a salué ce vendredi le soutien de l'ancien chef de la diplomatie sud-africaine, Wolof Pikbota, à la transition du pays vers la démocratie. Suite à son décès, aujourd'hui à l'âge de 86 ans, des suites d'une longue maladie. Le disparu, un ex-ministre des Affaires étrangères qui a été le visage de la politique d'apartheid sur la scène internationale pendant près de 2 décennies, était considéré comme une figure réformatrice au sein des gouvernements dans lesquels il a servi. Il avait même prédit dès 1986 que l'Afrique du Sud aurait un jour un président noir. Il fut l'un des rares membres du Parti national à reconnaître tôt que l'apartheid était injuste et un crime contre l'humanité, a souligné l'ANC dans un communiqué. Fidèle à son image de membre éclairé de l'aile réformiste du Parti national sud-africain, Wolof Botha avait incité le régime de l'apartheid à libérer en 1990 Nelson Mandela, le chef historique de l'ANC. Et après l'élection de M. Mandela à la présidence en 1994, il a été pendant 2 ans ministre des Mines et de l'Énergie du premier gouvernement sud-africain d'Union nationale. Actualité américaine maintenant, nouvelle mise en garde du président Donald Trump à Pékin sur le front commercial. Dans une interview, le chef de l'exécutif américain a brandi la menace de nouvelles taxes contre la Chine, Eric Maniakiza.
D'après le chef de la Maison-Blanche, l'économie chinoise a ralenti très fortement à la suite des droits de douane supplémentaires qu'il a récemment imposés sur 250 milliards de dollars de produits importés de Chine. Le président Trump continue de dire que Pékin doit son expansion économique à l'argent américain et à ses excédents commerciaux à l'égard des États-Unis. La Chine nous prenait 500 milliards de dollars par an, mais maintenant c'est fini, a-t-il déclaré. Monsieur Trump veut que la Chine vienne à la table des négociations en étant prêt à faire les concessions nécessaires. Il laisse à nouveau planer le spectre de nouvelles taxes douanières. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine soulève de plus en plus d'inquiétudes. Le FMI vient d'abaisser légèrement sa prévision de croissance chinoise pour l'an prochain de 6,4% à 6,2%, ce qui serait son plus mauvais résultat depuis 1990.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.